sport. Voici Mario Langlois.
Place au prochain repêchage de la Ligue nationale d'hockey. La loterie s'est déroulée ce soir. San Jose est récompensé pour sa médiocrité en repêchant au premier rang. Mais tu sais, ils sont pas pires que les autres qui sont tous passés par là. De toute façon, c'est ça qui est ça. Stéphane Leroux est avec nous. Ça le fait sourire. Bonsoir, Stéphane.
Salut, Mario. On a fait la loterie pour rien. C'est l'ordre du repêchage. C'est l'ordre du fin de classement. C'est la première fois depuis 2010 que ça arrive comme
aucun
ça.
Aucun changement.
Il n'y a pas eu de changement. Alors, on fait une loterie pour éviter que les équipes, exemple, fassent exprès pour le fameux tanking. Qu'on appelle
oui,
en anglais.
Oui.
Mais cette année, ça n'a rien changé. La logique, l'ordre a été respecté.
Ceci dit, on va de plus en plus parler d'ici le repêchage le 28 juin de l'identité des joueurs qui risquent d'être repêchés. Déjà, les gens qui suivent ça de près connaissent les noms, mais de quel genre de potentiel parle-t-on? Bon, Sidney Brainy, c'est unanime. Comme le repêchage va être... le Canadien va repêcher cinquième, c'est pas tant de Sidney Brainy dont j'ai envie d'entendre parler, mais c'est de tous ceux qui vont suivre.
C'est parce que par après, il n'y a rien de clair, on dirait. Tu sais, l'année passée, on disait tous Fantilli, après Bedard et tout ça. Cette année, selon tu parles à gauche ou à droite, il n'y a pas personne, on dirait qu'il y a le même deuxième, le même troisième, le même quatrième. Alors, tu sais, moi, je sais pas jusqu'à quel point Kent Hughes va être capable, avec des appels à ceux qui vont repêcher avant lui, Chicago, Anaheim, Columbus, de savoir un peu ces équipes-là dans quelle direction ils s'en vont. Prendre un défenseur, un attaquant. Tu sais, Chicago, en ce moment, ça n'a pas l'air clair s'ils prennent un attaquant ou un défenseur. Mais on pense qu'Anaheim et Columbus vont probablement prendre des défenseurs. Donc, tu arrives au poste numéro 5, tu vas avoir des bons attaquants disponibles. Puis tu sais, Kent Hughes, ce soir, dans son point de presse, il s'est pas caché, il a dit, à talent égal, on va y aller avec un attaquant. Parce qu'on a beaucoup de défenseurs dans la filiale, puis dans, tu sais, des bons jeunes défenseurs, il y en a en masse. Il a peut-être ouvert la porte pour un défenseur droitier. Il a dit, si jamais on y va, puis il y en a un défenseur droitier, c'est Lebchunov, un Bélarusse qui joue déjà aux États-Unis, à Michigan State. Mais sinon, on y va avec un attaquant. Fait que moi, je pense qu'il y a un pool de 3-4 attaquants là, qui peuvent être disponibles à la position 5, qui peuvent être intéressants, selon ce que le Canadien a comme évaluation. T'as Caden Lindstrom, qui est un gars qui joue dans l'Ouest pour Medicine Hat, qui est un gros bonhomme, 6'4", qui fait l'envie de bien des amateurs déjà, je le vois sur les réseaux sociaux, mais est souvent blessé. Ça peut être le gars. Ça peut être ce gars-là au cinquième rang. Il est classé troisième en Amérique du Nord. Ça peut être lui. Ça peut être... Moi, j'aime beaucoup Berkeley Catton, qui est un gars qui joue à Spokane. Il a un gros défaut, il est pas gros. 5 pieds 11. Mais il compte des buts, puis il ramasse des points, puis c'est probablement un des gars les plus intelligents avec la rondelle dans le repêchage. On l'avait vu au tournoi Linka-Gretzky l'été dernier. Il avait fait 10 points en 5 matchs. Il est pas venu au moins 18 ans qui vient de passer, tout comme Lindstrom, parce qu'il était blessé les deux, donc on n'a pas pu avoir une bonne idée. J'ai beaucoup aimé, dans le mondial des moins 18 ans qu'on vient de terminer, Tige Higginla.
Parce qu'il y a un père qui a joué dans la ligue, on dirait que ça élève toujours le candidat. Puis des fois, je trouve qu'on parfois on les surévalue parce que le père a joué dans la ligue.
Le fils de Brian Bellows il a pas répondu aux attentes. On disait tous qu'il était pour être bon. Puis, mais je regarde Higginla. Je sais pas si tu as déjà fait une entrevue avec Jerome Higginla, mais c'est un gentleman, c'est un monsieur. Quand est-ce que tu as entendu une mauvaise histoire sur Jerome Higginla, c'est pas arrivé. Moi, je l'ai connu à l'époque. Il jouait pour les Blazers de Kamloops. Il avait gagné la Coupe Memorial en 94, en 95. C'est vraiment un gentleman. J'ai de la misère à penser que son fils pourrait être un mauvais individu. On va dire ça comme ça. T'sais, on a déjà eu des mauvais individus là, qui sont passés. Alors, et dans le mondial des moins de 18 ans, on l'a utilisé sur le top 6. On l'a utilisé en désavantage numérique. Il a joué dans toutes les situations. Je pense que ça pourrait être un fichu de bon candidat. Là, il y a des gens qui disent, ouais, mais il est classé plus loin. Mais il est classé 9e par la centrale de recrutement en Amérique du Nord. Mais la centrale de recrutement, c'est une liste parmi tant d'autres. Pour le Canadien, c'est peut-être lui le joueur clé qu'on veut avoir. On le sait pas.
Mais dans un classement où on réunit tous les talents, là, peu importe du globe, il est classé où?
Top 10.
OK, il est top 10 même en incluant les joueurs de l'Europe.
Je pense que oui. Là, je veux dire, ça dépend des goûts. Puis comme je te dis, mon 8e à moi, puis le 8e d'Anaheim, puis le 8e de Columbus, puis le 8e du Canadien, c'est pas le même. Mais je pense que ce gars-là peut être intéressant. Puis je vais t'en nommer un 4e pour la discussion. L'Américain Cole Eiserman. Eiserman, un Américain, pas apparent avec Steve Eiserman.
Ça s'écrit pas pareil.
Non, exact. Lui, là, il a 15 mois, Mario. Je vais aller monter à novembre 2022. Tu vois, 15-16 mois, c'est le défi mondial des moins de 17 ans. Il joue pour les États-Unis. On parle de lui, Mario, là, on dit, pour le repêchage de 2024, c'est Eisenman ou Celebrini. Il était dans la même phrase, les deux, là. Un et deux, deux et un, ça dépendait. Et là, pour une raison un peu obscure, où il y en a qui disent qu'il est unidimensionnel, que c'est juste un joueur offensif qui...
C'est un ailier.
Ouais. Mais il shoot le puck, OK? Il a battu, dimanche après-midi, le record du programme américain qui appartenait à Cole Caulfield. Il a marqué son 127e but en 2 ans. Tous les joueurs qui passent dans le programme américain jouent 2 ans. Il a fait 127 buts en 119 matchs. Caulfield avait fait 126 buts en 123 matchs. Il est plus gros que Caulfield. C'est pas un géant, là, c'est un 6 pieds. Tu sais, lui, là, c'est un
695, tu me donnes... Tu, ouais. Je te pose une question. Est-ce qu'il est alimenté par un talent supérieur? Ou
ouais, il James Higgins. James Higgins, qui joue avec lui. Ben là, il joue pas avec lui. Il joue avec lui sur l'avantage numérique, mais pas sur son trio régulier. Mais oui, James Higgins, c'est un bon joueur. Lui, ça va être le premier de 2025. Il est pas admissible cette année parce que sa date d'anniversaire...
Tu comprends, c'est de départager qu'est-ce ouais. qui, le mérite mais, qui lui revient. Mais tu sais, t'as besoin d'un bon joueur pour t'alimenter. Mais on disait... Mais on disait... Cole Caulfield puis Jack Hughes.
Exact.
Je le sais. Puis Cole Caulfield, d'ailleurs, ça le piquait.
Ben oui.
Il disait, j'ai marqué des buts sans Jack Hughes une année.
Mais Eisenman, c'est un joueur offensif. Si tu veux qu'on, il fait un peu son bureau, lui, c'est la même chose qu'Ovechkin, mais de l'autre côté. Tu sais, c'est un gaucher dans le cercle droite au lieu du droitier dans le cercle gauche. Moi, j'aime beaucoup ce joueur-là. Je l'ai aimé quand je l'ai vu au moins de 17 ans. Je l'ai aimé dans le tournoi. Il a compté 9 buts dans le tournoi. Il était le meilleur buteur, ben, deuxième meilleur buteur parce que finalement, McKenna a compté son 10e dans un filet désert à la fin, là. Mais moi, je pense que ces 4 attaquants-là qu'on vient de parler, là, Catton, Higginla, Lindstrom, Eisenman. Là-dedans, le Canadien va avoir un bon joueur. Lequel le Canadien aime le plus? Peut-être c'est même pas un de ces quatre-là. Là, j'ai tenu pour acquis que le Russe Davidoff ne se rendrait pas au 5e rang. D'après moi, il va sortir le top 4. Donc, le Canadien pourrait, s'il veut absolument un attaquant, choisir un de ces quatre-là. Ou sinon, le défenseur droitier originaire du Belarus qui joue à Michigan State.
Bon, ben très intéressant comme analyse. Je t'en repose une autre sur les défenseurs. Crois-tu dans les défenseurs qui risquent d'être disponibles au rang, au 5e rang? Parce que c'est beau qu'on ait beaucoup de défenseurs, mais si ce défenseur-là est le meilleur joueur disponible de façon évidente, et tu sais, on n'a pas tous des futurs Bobby Orr, là. Des fois, c'est facile de surévaluer ce qu'on a à la ligne bleue. Alors, comment tu vois la possibilité?
Moi, je me dis qu'à un certain moment, là, tu sais, c'est bien beau dire on prend le meilleur disponible, là, mais tu sais, t'as déjà fait des poules de hockey, là. T'as déjà, moi, j'ai fait des repêchages dans ma ligue de balle-molle, puis tout ça. À un certain moment, tu te lasses tes joueurs avant d'arriver au repêchage.
Oui.
T'en mets un 5e, t'en mets un 6e, t'en mets un 7e. On est-tu d'accord, là, quand le 6 puis le 7, là?
C'est pas un ou l'autre, là.
Fait que là, si t'arrives à ton tour, puis le 6, c'est un défenseur, puis le 7, c'est un attaquant, tu sais, il me semble, là, que, tu sais, en tout cas, ça, c'est mon opinion. Peut-être que les dépisteurs du Canadien ne voient pas. Ils vont s'asseoir, eux autres, puis ils vont s'astiner pendant des heures pour savoir qui est 6, qui est 7. Puis quand leur liste est faite, habituellement, ils n'en dérogent plus. Ils s'en vont au repêchage avec cette liste-là, puis ils la suivent. Alors, mais moi, je pense que si tu veux t'arranger pour avoir un attaquant, fais ta liste en fonction qu'au 5e rang, tu vas prendre un attaquant. Puis si, comme je te disais au début de l'intervention, le Canadien est capable d'avoir un peu d'informations, tu sais, il n'est pas 15e, le Canadien. Quand t'es 15e, oublie ça, t'appelleras pas les 14 en avant de toi pour savoir dans quelle direction tu vas aller. Mais tu sais, Chicago repêche 2e. Là, il sait que le premier, c'est Celebrini. Tu prends-tu un défenseur, tu prends-tu un attaquant, tu prends-tu le Russe, tu prends-tu, tu sais, tu vas finir, je pense, par avoir une bonne idée. Eux autres, là, les Canadiens, ils vont s'asseoir puis ils vont avoir à décider entre 2-3, là. Ils vont s'obstiner sur lequel, là. Higginla, Catton, Eisenman, le défenseur
Russe. Pourquoi Eisenman est si bas, si c'est un ben, si bas marqueur? Parce qu'on disait de Caulfield qu'il avait chuté parce qu'il était petit, mais lui, c'est un gars de 695.
Ouais, on parle de son unidimensionnel, du fait que c'est pas un grand joueur défensif. On dit que s'il compte pas de but, il aidera pas ben, son implication. Tu sais, chaque joueur a des défauts, là. Chaque joueur, il n'a pas de joueur parfait, là. Tu sais, t'essayes de penser joueur parfait, il n'existe pas. Moi, des fois, je trouve ça un peu, tu sais, j'ai pas vu jouer Cole Eisenman 200 matchs, là. Les dépisteurs, ils les voient plus que moi. Mais tu sais, la centrale de recrutement l'a baissé au 12e rang, là. Alors, est-ce que sur la liste du Canadien, il est encore top 5? On ne sait pas, là. Tu sais, il y a des joueurs, là, je vais juste mettre les gens en garde, ils regardent la liste de la Ligue nationale, là. Il y a des joueurs qui sont classés en 2e ronde, des fois, dans la liste de la Ligue nationale, ils sont même pas repêchés, là. Puis il y a des joueurs que la centrale de la Ligue nationale place, mettons, au 10e rang, puis ils sortent en 3e ronde. Ça arrive à chaque année, là. J'ai des exemples, je peux t'en sortir.
Tu es en train de me dire que les meilleurs dépisteurs ne travaillent pas pour la centrale de la Ligue nationale?
Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, c'est ceux qui ne trouvent pas de job avec une équipe qui s'en vont là. Mais ça, c'est méchant un peu, là. Mais tu sais, la centrale de la Ligue nationale, c'est parce que c'est le guide officiel. Parce que tu peux prendre la liste à Bob McKenzie, à Craig Button, à Stéphane Leroux, à Redline Report, à tout, tu sais, mm-hmm. chacun fait sa liste.
Oui.
Puis souvent, là, la liste, moi, j'ai remarqué au fil des ans, là, chacun qui sort sa nouvelle liste, là, il va avec une bombe, là, tu sais, genre, pour faire parler de sa liste, là. Tu sais, genre, c'est comme s'il y en avait un qui sortait.
C'est quoi ta bombe, toi? C'est,
ben non, mais je veux dire, il y a des gens qui sortaient une liste, mettons, là, puis là, c'était plus, mettons, Nathan McKinnon, le premier espoir, il était rendu cinquième sur sa liste. Voyons donc, là, tu sais, mm. parce que tu veux faire parler de toi. Oui. Parce que si tu veux en vendre ta liste, tu veux que les gens s'abonnent à ton compte, il faut que tu amènes des éléments différents. Si tu fais la même chose que tout le monde, t'es pas, tu te démarques pas. Alors, la liste de la Ligue nationale, c'est le guide. Mais il n'y a pas un dépisteur d'une équipe de la Ligue nationale qui va te dire on suit ça à la lettre. Quand la liste de la Ligue nationale sort, on la regarde. S'il y a des choses qui ne fitent pas, on va retourner voir nos devoirs juste en cas. Mais il suffit à leur liste à eux.
Vous reconnaissez la voix de Stéphane Leroux, notre expert, l'expert, en tout cas, au Québec. Je sais pas s'il y en a d'autres, là, mais moi, je les connais pas. Mais Stéphane Leroux, notre expert, quand il vient le temps de parler des talents, des jeunes talents juniors, d'ailleurs, qui va décrire la série finale de la Ligue, de la LHJMQ. Je dis toujours la LHJMQ, mais maintenant.
C'est moins de troupe.
Ouais, c'est moins de troupe. Bref, on vient dans un instant. Avez-vous une question pour Stéphane? 9-8-9-8-5. Et je te pose la question que je lance en tribune téléphonique, entre autres questions comme amorce de discussion. Et tu vas répondre dans un instant. Toi, tu connais le bassin des joueurs. Est-ce que t'aimerais avoir une chance d'utiliser le choix numéro 5 dans une transaction pour prendre un raccourci ou, compte tenu de la qualité des joueurs disponibles, tu souhaites que le Canadien exerce son choix de repêchage? Stéphane va répondre après la pause et vous allez répondre tout à l'heure. 9-8-9-8-5, notamment pour les questions à Steph. On vient tout de suite. Oui, nous voilà de retour avec Stéphane Leroux. Vos questions au 9-8-9-8-5. Nicolas qui a une question pour toi. Ben pour nous, mais c'est à toi que c'est toi que je veux entendre y répondre. Est-ce que tu échangerais le 5e choix ou tu le gardes? Ben en fait c'est exactement la question que je voulais te poser. Fait que je vais la poser.
Ben, c'est quoi l'échange?
Ouais, c'est ça. C'est difficile de spéculer là-dessus, mais regarde, je vais y aller de façon à ce que tu puisses répondre. Est-ce que toi tu connais la qualité du bassin? Est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs d'assez bonne qualité pour que tu dises non, je veux repêcher?
Ben, top 5, c'est toujours un peu difficile à échanger, on va se le dire. Ça se fait, mais c'est difficile à échanger. Si le Canadien a décidé de prendre le raccourci, comme tu dis, puis qu'on offre un joueur qui peut entrer l'an prochain dans le top 6 du Canadien, exemple, je sais pas, tu sais, un Martin Nechas, là, qui était le nom qu'on parlait, notamment avec Caroline, ou, tu sais, un Kirby Dack, entre guillemets, là, c'est l'exemple qu'on a pris, là, meilleur que Newhook. Moi, Newhook, je suis pas un grand fan, là, mais mettons Kirby Dack, là, si on dit, regarde, on te donne Kirby Dack, puis un choix de 3, je dis n'importe quoi, là, puis on a besoin de ton premier choix, puis, tu sais, peut-être que j'y penserais, mais c'est la mentalité. C'est les Canadiens, est-ce qu'ils veulent prendre le raccourci pour justement être dans le mix l'an prochain, comme Kent Hughes a répété, ou s'ils se disent, regarde, on garde notre plan, on repêche notre jeune, puis on va avec ça. Moi, je pense que la question est dure à répondre tant que tu sais pas c'est quoi la transaction.
J'ai une autre question, puis peut-être qu'il n'y a pas de réponse, là, mais tu penses-tu que ton cinquième, ton choix cinquième au total a plus de valeur avant de l'exercer, ton choix? Une fois qu'il y a un nom sur le choix, tu comprends ce que je veux dire?
Si l'équipe qui veut avoir un joueur en particulier, son joueur au choix 5 est pas sorti. Tu sais, je te donne un exemple. Mettons qu'il y a une équipe qui repêche 10 ou 11, là. Eux autres, ils veulent avoir Gagin là, puis ils ont peur qu'à 10 et 11, il sera plus là, là. À 5, il est encore là. Regarde, on saute dessus pis on le fait. Ça peut arriver. Mais le Canadien, s'il recule, il va obtenir quoi pour reculer? Deux autres choix repêchage? On en a déjà 11, on en a déjà 12 l'an prochain. Tu sais, ça prend des joueurs, là. Je pense que ça prend des joueurs. C'est le contraire. Faut que tu packes des choix ensemble pour aller chercher un bon joueur, je pense, dans les deux, qui peut jouer dans les deux premiers trios pour améliorer ton attaque. Tu comptes pas de but. C'est ça que ça te prend, si tu veux prendre le raccourci. Sinon, ben, repêche ton joueur, puis espère que dans 22, 23, 24 ans, il va être un dominant, puis il va l'être ton top 6. Mais faut que tu continues à exercer ta patience.
C'est une couple d'années avant que ce gars-là ait un impact dans ton alignement.
Normalement, il n'y a pas ben de ces, les quatre attaquants que je t'ai nommés, là. Je pense pas qu'ils vont jouer l'an prochain dans la Ligue nationale. Peut-être dans deux ans. Tu sais, la question a été posée à Kent Hughes ce soir. L'an passé, les trois premiers ont joué des matchs dans la Ligue nationale cette année. Bedard, Fantilli, c'est sûr. Là, ceux de l'année passée vont commencer à jouer cette année, là. Mais tu sais, l'important, là, les gens demandent souvent ça. Il va te jouer l'an prochain. Il va te jouer l'an prochain. C'est pas important, ça. Faut qu'il soit bon pendant 10 ans.
Au moment où il va jouer, je te rejoins complètement.
C'est pas un sprint, c'est un marathon.
Pas évident de répondre à la prochaine question, mais quand même, Jesse qui te pose la question suivante. Avec le deuxième choix de première ronde qui va être entre 28 et 32, quel joueur va-tu être repêché par le Canadien?
Impossible. Je peux pas répondre. tu sais pas qui va être encore disponible. Tu sais, je veux dire, on avait, moi, là, il y a deux ans, là, à cette position-là, à 26, là, moi, je voulais qu'ils prennent, moi, mon gars, c'était Alain Hudson. Sur ma liste que j'avais fait, c'était lui. Ils ont pris Philippe Machard. J'ai fait, bon, ils l'aimaient pas. Tu sais.
Il est encore disponible.
Là, ils sont arrivés le lendemain, la deuxième journée, il y avait le premier choix de la deuxième ronde, 33. Je dis, ils vont prendre Alain Hudson. Je l'avais adoré au Mondial des moins de 18 ans. Non, ils ont pris Owen Beck. Je fais, coudon, ils l'aiment pas. Mais il était encore là en fin de deuxième ronde. Alors, tu me poses la question, qui tu prendrais au choix 26? Je t'ai répondu Alain Hudson. Ils l'ont eu à 62.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Alors, encore une fois, la médiocrité est récompensée et la dernière équipe au classement de la saison régulière repêchera au tout premier rang la saison prochaine. Bonsoir, Martin, comment ça va?
Salut, Mario. Mario, tu sais quoi?
Oui.
T'as parlé de Lafrenière, puis c'était intéressant qu'on le rappelle aux gens. Quand les Rangers, avec Jeff Gorton comme patron hockey en passant, ont repêché Lafrenière au tout premier rang, ils avaient littéralement volé la loterie aux Red Wings de Détroit. Rappelle-toi, Yzerman était déjà là depuis quelques temps comme directeur général à Détroit. Il avait débarqué avec tout son monde, puis là, c'était la reconstruction. Les Red Wings avaient fait une saison horrible, donc ils auraient dû remporter ce tirage-là. Mais malheureusement, la loterie est allée aux mains des Rangers, qui, eux, étaient quand même, je dirais pas haut dans le classement, mais ils étaient loin du dernier rang. Et souviens-toi qu'après ce repêchage-là, le lobbying a été tellement fort, notamment des Red Wings, mais aussi de d'autres équipes qui ont jugé ça un peu injuste qui était arrivé. On a reformé un peu la loterie, on l'a changé un petit peu, ce qui fait en sorte que, comme tu disais, le gars qui finit, le gérant général qui dirige l'équipe qui finit dernier, il veut repêcher premier. Alors, dans les années qui ont suivi, l'injustice, entre guillemets, qui a été fait aux Red Wings de Détroit, ne s'est pas répété. Alors, les Sharks avaient un petit peu plus que 25% de remporter la loterie.
Mm-hmm.
Ils l'ont remporté. Ils ont repêché 4 l'année passée, juste avant le Canadien de Montréal. D'ailleurs, on a toujours dit l'an passé que si les Sharks n'avaient pas pris Will Smith, probablement que Ryan Backer ne serait pas avec le Canadien et que c'est Will Smith qu'on aurait repêché. Mais les Sharks seront le tout premier choix, Mario, pour la première fois de leur histoire. Ensuite, ce sera Chicago, Anaheim, Columbus et le Canadien. Et l'équipe de Utah, faut s'habituer, c'est plus l'Arizona, c'est l'Utah, vont repêcher 6e. Ensuite, Ottawa, Seattle, Calgary, Jersey, Buffalo, Philadelphie, Minnesota, Pittsburgh, Détroit et Saint-Louis complètent le top 16. La loterie, Mario, pour rappeler aux gens, c'est pour déterminer les 16 premiers à repêcher.
Oui, et Ken Hughes a tenu un point de presse aussitôt après. Honnêtement, oui. Il y avait plein de questions intéressantes, mais je le comprends qu'il peut pas répondre grand-chose, dans le fond, hein, parce que ça va être de même jusqu'au repêchage, Martin.
Absolument, parce que la stratégie est pas encore établie. Écoute, on est le 7 mai et la première ronde va être présentée le 28 juin prochain. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire. L'évaluation des joueurs est pas mal complétée, Mario, parce que les joueurs juniors, les joueurs de collège, on les a vus en saison, on les a vus en série. Il vient de se terminer le championnat des moins de 18 ans. C'est aussi un moment très important pour évaluer les joueurs. Alors, on sait pas qui va être disponible, mais quand même, Kent Hughes s'est servi d'une petite enquête faite par le vétéran collègue McKenzie, qui lui dit que après Celebrini, il y a beaucoup d'équipes qui vont devoir attendre qui l'autre va sélectionner. Parce que il y a quand même une égalité, appelons ça comme on veut. Je pense que plus tard, tu vas parler à Stéphane Leroux,
oui,
là, mais
oui.
il y a beaucoup d'équilibre entre les joueurs qui seront disponibles après. Alors, c'est pour ça qu'il peut pas dire grand-chose. Mais ils sont contents d'avoir eu le 5e choix parce que c'est là où ils ont terminé. Alors, entre guillemets, le Canadien a gagné sa loterie. On l'écoute tout de suite.
Je pense, dès que la saison termine, Renaud, on pense toujours qu'on va choisir le 5e. Je pense que c'est naturel. On on espère, je pense que toutes les équipes espèrent de gagner la loterie, mais en réalité, de savoir maintenant qu'on choisit cinquième, ça nous rend content, puis on va avoir nos rencontres la semaine prochaine, puis on va commencer discuter nos options. C'est sûr que nos options vont être déterminées par les joueurs qui vont être choisis parmi les premières quatre, mais on est très confiant qu'on va être en mesure de repêcher un bon joueur.
Alors, Mario, le Canadien s'est pas caché du tout. Il y a un bout de la stratégie qu'on connaît, c'est repêcher un attaquant. Le Canadien est préférablement un ailier. Est-ce que ça peut être un joueur de centre qu'on peut ensuite transférer à l'aile? Est-ce qu'on peut jouer ce joueur-là au centre puis amener un autre centre du Canadien à jouer à l'aile? Ça, c'est le plan de base. Mais il y a été beaucoup question des scénarios sur la table pour le Canadien, Mario, parce que des défenseurs, il y en a un puis un autre actuellement. Alors, mais quand tu te présentes à la table, puis que c'est à toi d'aller sur la tribune, puis de faire la sélection au numéro 5, si le vrai meilleur joueur disponible est un défenseur, ça se peut que tu sois ébranlé. Ça se peut que à la table du Canadien, on dise « Hey, wow, là, est-ce qu'on laisse passer un tel joueur parce que nous, on veut repêcher un attaquant? »
Oui, puis ça se peut que le défenseur disponible soit meilleur que la moitié des défenseurs que le Canadien a aussi, là, mais juste
Mario. Mario, dans l'histoire du Canadien, le meilleur exemple, c'est Carey Price. Parce que le Canadien repêche Carey Price au moment où José Théodore vient de gagner le trophée Hart. Ça a été un peu surprenant qu'il le gagne, mais il l'avait gagné. Alors, le Canadien avait un numéro un pour plusieurs années. José était encore un jeune gardien. Et là, il y avait encore la quête du fameux joueur de centre. Et il y avait un dénommé Pouliot. Souvenez-vous, là, c'est Pouliot qui est là. Alors, le Canadien choisit de repêcher Carey Price, même s'ils ont des besoins comblés à ce moment-là devant le filet. Mm-hmm. On connaît l'histoire. Oui. Les deux meilleurs joueurs de ce repêchage-là ont été Sidney Crosby 1 et Carey Price au cinquième échelon. Alors, tu sais, c'est souvent le meilleur joueur disponible. Ça se termine comme ça. Mais c'est sûr que s'il y a 3-4 joueurs sur l'assiette du Canadien et qu'à l'échelon numéro 5, il y a un attaquant qui vaut vraiment la peine, ils vont se tourner vers un attaquant. Est-ce que le joueur numéro 5, dans les évaluations des recruteurs du Canadien, celles qu'ils ont déjà là, au moment où on se parle, est un joueur qui potentiellement peut être prêt de la Ligue nationale? On écoute Kent Hughes.
C'est pas, peut-être que je vais être plus en mesure de répondre à ça, Martin, après nos rencontres, mais j'imagine que si c'est pas quelqu'un qui est prêt l'an prochain, c'est quelqu'un qui devrait être prêt pas longtemps d'après. Si on regarde qu'est-ce qui est arrivé cette année, les premiers 3 joueurs repêchés ont joué dans la Ligue nationale, puis j'imagine que il va y avoir plusieurs d'autres du repêchage de 2023, excuse-moi, qui vont monter dans la Ligue nationale cette année.
Et Mario, les séries actuelles nous montrent des jeunes joueurs, Wyatt Johnston, Lowry, le grand défenseur avec les Bruins de Boston, que souvent, là, il y a les exceptionnels qui sortent du repêchage, mettent les patins, s'en vont au camp et font le grand club. Mm-hmm. Ça, ce sont les exceptionnels. On pense que Celebrini en sera un. Et les Sharks de San Jose, honnêtement, ils vont le faire jouer, Celebrini, à moins qu'il démontre qu'il est vraiment pas prêt au camp d'entraînement. Mais hormis ça, Mario, c'est souvent les gars de deuxième année. Tu sais, leur année de repêchage, l'année suivante, souvent, ils vont terminer le stage junior, vont faire une année de plus dans les collèges. Et c'est souvent 2 ans après qu'on les voit apparaître. Et les jeunes qui se mettent en évidence dans le repêchage actuel, c'est beaucoup ça. Alors, c'est ça qui va être intéressant de voir. Tu sais, peut-être que le premier choix du Canadien va être un bon joueur, mais ça va peut-être prendre 1 an, peut-être même 2 ans. Mario, les transactions. Évidemment, oui. Le Canadien a un choix au numéro 5 qui lui a été accordé par la loterie, son choix. Au total, ils auront 12 choix au repêchage et ils ont un deuxième choix au 29e échelon, un choix qui appartenait aux Jets de Winnipeg et que le Canadien a troqué en retour de Sean Monahan. Est-ce qu'en ce sens, on s'attend à des transactions? Est-ce que le choix numéro 5 du Canadien est disponible pour discussion? Voici la réponse.
Mais on est toujours ouvert, Martin, à n'importe quoi pour améliorer notre équipe. Mais je pense que les pourcentages, je pense que c'est fort probable qu'on va repêcher.
Alors, il n'y aura pas de grande discussion sur les transactions, Mario, parce qu'un joueur, un top 5 au repêchage, on l'a vu l'année passée à Nashville, tu l'as dit dans ton introduction, il y avait eu des coups de téléphone. Parce que Reinbacher était considéré assez haut parmi les équipes là, qui parlaient entre le 12e rang puis disons le 8-9e rang. Il y avait des équipes qui aimaient beaucoup Reinbacher. Alors, il y a des équipes qui ont appelé le Canadien pour la possibilité de s'avancer, mais comme on peut voir, Reinbacher étant la possession du Canadien, les offres n'ont pas été assez alléchantes. Et tu l'as dit aussi, la possibilité de s'avancer, c'est-à-dire de passer à 4, à 3, à 2, c'est un peu mince comme possibilité, ça s'est déjà vu. On a même vu des clubs reculer. Souviens-toi des Panthers de la Floride. Ils ont reculé pour repêcher Barkov, parce que eux étaient sûrs de repêcher Barkov, et le club qui était derrière eux ne voulait pas Barkov. Alors, on a eu une transaction, puis les Panthers ont reculé. Je peux-tu dire que l'autre club, aujourd'hui, quand il voit Alexander Barkov jouer, peut-être qu'il n'aurait jamais fait cet échange-là. Écoute, à toute fin pratique, Mario, je dirais pas que c'est tirer les dés, ces affaires-là, mais ça va être intéressant de voir si le Canadien peut bouger. Est-ce que le Canadien, par exemple, s'il vise un attaquant qui est encore disponible, puis qu'on pense qu'il pourrait être là encore 6, 7 ou 8, est-ce que le Canadien peut aller s'améliorer, reculer, puis repêcher l'attaquant qu'il convoiterait? Ça, c'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, Mario, il y a une chose qui est sûre. Est-ce
que ça arrive ou qu'il y a une transaction qui puisse grimper au repêchage? C'est qu'on utilise le choix numéro 5 dans une transaction, pas de possibilité. Je dis pas que c'est ça qui va arriver. Reculer, mais d'avancer au repêchage, c'est, en tout cas, je serais très, très étonné.
Ouais, puis parce que les équipes qui sont devant Mario, là, tu sais, Chicago, Anaheim et Columbus sont aussi en reconstruction.
Exact.
Alors je sais qu'Anaheim a fait une transaction avec les Flyers, mais c'est parce qu'on a transigé sur un espoir des Flyers qui était malheureux à Philadelphie. Alors le contexte est très différent. Question intéressante à la fin du point de presse où on a demandé à Kent Hughes s'il espérait que ce soit la dernière fois qu'il pige dans le top 5. Tu l'as fait entendre, mais je le ferai entendre pour les auditeurs qui viennent de se joindre à nous. Quelle fut sa réponse?
On veut progresser d'une année à l'autre. Je pense qu'on a touché aux sessions de médias au fin de l'année, qu'on croit que c'est le temps qu'on progresse, qu'on soit dans le mix. Puis si c'est le cas, si on réussit, on va repêcher plus tard l'an prochain.
On est content.
À part de pas faire des séries puis gagner la loterie.
Ah, il y avait un petit peu plus long sa réponse complète que sur l'extrait qu'on a joué tantôt, fait que je m'excuse d'avoir parlé par-dessus, mais on est content que ce soit l'attitude, je pense, qui anime le Canadien en ce moment. Et d'autre part, de dire que stratégiquement aussi, tu sais, de dire qu'il veut absolument un attaquant. Tu sais, on essaie de jouer dans la tête des adversaires également. Ça peut peut-être ouvrir la porte à des coups de téléphone, sachant le mais il y a beaucoup d'équipes qui cherchent la même affaire que le Canadien. Combien d'équipes cherchent un attaquant dans le top 6? Peut-être la moitié de la ligue, c'est pas le trois quarts, alors.
Tu sais, honnêtement, Mario, là, tantôt, on s'est parlé de l'exemple de Carey Price. Actuellement, puis Stéphane Leroux va développer avec toi, là, mais dans le top 5, Mario, là, chez les Nord-Américains seulement, là, j'ai pas mis les Européens là-dedans. Il y a 3 défenseurs dans le top 5.
Mm-hmm.
Alors, tu sais, est-ce que vraiment le Canadien peut lever le nez en bon québécois sur un défenseur dans le top 5? Actuellement, juste chez les Nord-Américains, il y en a 3.
Alors, meilleur joueur. Moi, je suis de la politique du meilleur joueur possible. Et après ça, on gérera le reste, on gérera les actifs.
Absolument. Puis tu sais,
parce que c'est des actifs souvent avant d'être des joueurs. Ben, fait que plus tes actifs ont de la valeur, plus ton organisation gagne. Si tu repêches quelqu'un dont l'actif décline rapidement, ben en tout cas, c'est ma modeste opinion là-dessus.
Tu sais, l'exemple est intéressant, Mario, avec les Sabres de Buffalo. Quand tu peux avoir le luxe là, d'avoir dans ton équipe des gars comme Dallin, Owen Power et Samuelson, en plus, puis que tu vas chercher Bowen Byron dans une transaction parce que tu as les mains pleines au centre puis tu peux te permettre d'échanger Middlestad. Écoute... Alors, ça va être à suivre.
Il y a une chose qui me rassure, puis je pense que c'est tout le temps l'attitude de Kent Hughes, c'est qu'il n'écarte aucune possibilité.
Absolument.
Il est ouvert à tout, puis c'est comme ça qu'il faut que je gère ça. Martin, un gros merci. On se reparle
très
bientôt. Donc, bonne soirée. Ça sent la coupe. Bye bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Benoît Groulx, au sujet duquel on apprenait hier qu'il avait accepté d'aller diriger dans la KHL à Tcheliabinsk. Et c'était une vidéo de promo de l'équipe hier où on voyait Benoît déambuler dans un quartier russe. Où exactement, il va nous le dire, je l'ai su, je veux pas brûler le punch, mais où il se familiarisait avec quelques mots en russe. Il est avec nous ce soir en direct à l'émission. Salut Benoît!
Salut Mario, j'espère que tu me demanderas pas de répéter ça parce que là, j'ai pas mon interprète à côté de moi.
Ouais, là, tu vas toujours avoir un interprète. Shohei Ohtani s'est mis dans le trouble avec un interprète tout le temps à côté de lui, là.
Non, mais tu sais quoi? Je l'ai dit l'autre jour, j'ai dit assurez-moi que je dis les bonnes choses, que j'aurai pas de l'air fou, donc. tu n'as pas le choix là-bas d'avoir un interprète, puis. Non, on a fait ça dans un quartier ici, dans le quartier russe de New York, que je connaissais pas, c'était à Brighton Beach.
Okay.
Et puis, à peu près 45 minutes de Manhattan, là, si tu veux. Puis, quand tu arrives là, il y a des restaurants, des pharmacies, tout est en russe. Il y a deux, trois rues, là, tout est russe. Les gens dans la rue, ça parle en russe. Donc, je n'étais pas au courant, mais ça a fait drôle. Puis, ça a fait une bonne avant-midi là, que j'ai passé avec les personnes là, qui m'ont suivi un peu. Là.
Ben, j'imagine une belle découverte sur une réalité donc new-yorkaise que ce quartier russe. Et parce que oui, on se fait prendre au jeu. Je dis bon, ben Benoît, je savais que tu étais à New York. Je me demandais si tu avais fait l'aller-retour. Comment ça s'est présenté, cette offre-là, Benoît? Est-ce que c'est quand tu es parti? La dernière fois qu'on s'est parlé, tu t'en allais rejoindre Clément Jodoin en Allemagne. Puis là, tu t'en allais te promener puis réfléchir. Y a-tu un lien entre ce voyage-là puis l'offre qui t'est arrivée?
Ben écoute, je pense que c'est un peu avant ça. Au mois d'octobre, j'étais en Suisse et puis j'avais été essayer de comprendre comment la Ligue Suisse fonctionnait. Puis j'ai reçu un coup d'appel, un coup de téléphone de cette équipe-là, Tcheliabinsk, directeur gérant Alex Volkov, qui s'appelle. Et puis, qui m'a demandé mon intérêt. Il venait de laisser aller leur entraîneur. Il m'a demandé mon intérêt à aller coacher l'équipe. Puis, c'est quoi, à ce moment-là, j'étais pas dans le bon mindset, là. J'étais pas prêt à revenir coacher tout de suite. Puis, en plus, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, écoute, la KHL, je la connais pas. Une culture différente. Puis, moi, bien, j'ai toujours pensé que c'était un pensé que j'étais un entraîneur assez méthodique. Puis, je me suis dit, pour me préparer à aller là, j'ai besoin de temps. Et là, une semaine, 10 jours, ça sera pas assez. Donc, tu sais, pour moi, le timing était pas bon. Donc, on est resté en contact pas mal toute l'année. Puis, ils sont revenus à la charge il y a peut-être un mois et demi à la fin de leur saison, là, quand ils ont été éliminés. Puis, tu sais quoi, j'ai fait mes recherches, Mario. J'ai parlé à tout près de 10 personnes, des anciens joueurs, des coachs qui ont coaché là-bas. Tu dois te douter un peu, c'est qui, des Québécois coachs qui ont coaché en Russie?
Bob? T'as parlé à Bob? Bob Barclay?
Et puis, ben, c'est ça, je dirais pas c'est qui, mais il n'a pas une tonne, là, c'est connaît. Tu sais, ces gars-là, ils m'ont vraiment encouragé. T'sais, ils m'ont parlé de la réalité d'aller coacher là-bas, de la Ligue. Mais ils m'ont vraiment, là, encouragé à y aller. Puis sincèrement, là, je suis très content. Puis très excité là, de m'être joint à cette équipe-là.
Ben, félicitations, puis je suis content que tu t'aventures en dehors. Est-ce que t'as-tu eu un deuil à faire d'un rôle dans la Ligue nationale avant de te tourner vers des possibilités comme celle-là où il était déjà fait au moment où ton entente avec Tampa Bay et Syracuse a pris fin, Ben?
Ben écoute, pour être bien franc, tu sais, Tampa Bay m'ont proposé de rester dans l'organisation dans un rôle différent l'année prochaine. Cette année, j'ai pris ça au jour le jour, puis à un moment donné, Mario, je me suis dit, j'ai toujours demandé à mes joueurs de s'améliorer quand ils n'étaient pas avec nous autres, d'être chez eux, puis d'être responsable de s'améliorer. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer et où j'aimerais coacher? Parce que pour moi, même si je ne coache plus dans l'organisation du Lightning, je suis encore proche avec ces gens-là. Ils m'ont traité, Mario, moi et ma famille, d'une façon extraordinaire, même encore cette année. Et puis, tu sais, j'ai juste des bonnes choses à dire. Donc, si j'allais quitter l'organisation, il fallait que le défi soit quelque chose qui m'intéresse vraiment, qui me motive. Donc, je suis allé en Suisse, je suis allé en Allemagne, j'ai été voir des clubs que... Et je me suis dit, là oui, là non, là oui, là non, ça peut-être. Et puis, quand je suis revenu, j'ai parlé avec des équipes dans la Ligue américaine. J'ai été vraiment chanceux. Sans mentionner l'équipe, il y a une équipe à qui j'ai eu des pourparlers intenses qui m'ont offert le poste. Puis, je suis là à la conclusion, Mario, que j'ai coaché 600 games dans la Ligue américaine. Une ligue que j'adore. Une ligue à qui je ne ferme pas la porte du tout, mais... Je me suis dit, j'ai 56 ans, j'ai le couteau entre les dents. La Ligue américaine, t'es là pour développer et gagner. Je m'en vais en Russie en espérant gagner un championnat. Donc, c'est un défi complètement différent. Je me suis dit, je ferais pas ça à 60-62 ans. C'est le temps de le faire. Puis, pour répondre à ta question, la Ligue nationale, écoute, j'ai eu des offres pour des entrevues pour être entraîneur-chef. Plus qu'une dans ma carrière, plus qu'une pour être adjoint. Ça ne s'est pas matérialisé pour différentes raisons. Des fois, ce n'était pas la bonne opportunité pour moi. Puis des fois, souvent, ça n'a pas été la bonne opportunité pour eux. Mais c'est pas une question de deuil. C'est une question que le timing est arrivé comme ça. Et puis là, parti en Russie, puis moi, je pensais un jour à fois. Il me restait 5 ans coaché, peut-être 10 ans. Mais ce que je veux, c'est en profiter.
Ben, t'as bien fait. Je pense que avec tout ce que tu nous dis là, c'est une excellente décision. Je suis quand même curieux. Est-ce que t'as participé au processus à Ottawa qui a abouti sur la sélection de Travis Green? Est-ce qu'on t'a interviewé?
Non, aucunement.
OK, OK. Est-ce que t'as-tu un agent qui fait des démarches pour toi, Ben?
Oui.
Hein?
Oui. Mais, tu sais, là, Mario, là, chaque équipe à sa façon de parler les choses. Chaque équipe a sa réalité. Et puis, Steve Steos pense qu'il a fait les choses de la bonne façon. Il a engagé un gars en qui il a confiance. Il a engagé un gars qui pense que Travis Green, c'est un bon coach. J'ai coaché contre lui dans les mineurs. Et puis, tu sais, quand tu regardes sa feuille de route, tu te dis, bon, je comprends très bien que les gens se posent des questions, mais eux, ils ont fait les choses comme ils voulaient le faire, et puis c'est ça, c'est comme ça que ça marche, là, okay, des fois, j'ai déjà été interviewé pour la job à Ottawa dans le passé, puis ça s'est pas matérialisé, donc, tu sais, c'est une question de timing, c'est une question d'approche, et puis...
Là, eux autres, ils voulaient un coach qui avait du millage en chef dans la Ligue nationale, parce qu'ils se sentent prêts à aboutir, puis bon, je comprends que le timing, ça joue pour beaucoup, là, dans la vie, hein, Ben?
Le timing, c'est la clé. C'est la clé, puis je pense qu'ils ont fait les choses de la bonne façon, et puis écoute, c'est pas parce que je suis un gars de Gatineau qu'il faut que je coach. Il y en a d'autres coachs en région, il y a Bob, il y a Claude, il y a Alain. Je suis pas sûr qu'ils sont tous intéressés à revenir, mais je veux dire, il y en a d'autres coachs aussi, là, puis je sais pas s'ils ont été contactés ou quoi que ce soit, mais tu sais, comme moi, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ça soit le match parfait, il faut qu'il y ait une affinité. Les gens veulent travailler avec des gens qu'ils connaissent, avec des gens qui ont confiance, puis Je pense que Steve Theo, c'est un nouveau gérant. Il a montré qu'il semble être une personne assez méthodique quand même dans sa façon de faire les choses. Tu regardes leur line-up, tu regardes leur score à pêchage, tu regardes le cap salarial. Je peux dire une chose, il y a du pain sur la planche, tu sais, comme directeur gérant, puis je pense qu'il va avoir besoin de plus qu'une année pour revirer tout ça de côté, parce que je suis pas sûr que ça va être facile de revirer tout ça, mais toutes les pièces casse-tête ensemble à Ottawa, je pense qu'il va avoir besoin de plus qu'une période de transaction pour arriver à ça, mais écoute, ils ont fait leurs affaires, je pense qu'ils ont bien fait les choses, puis moi, de mon côté, j'avais une offre, et j'étais très confortable à l'accepter, tout simplement.
Ben, je pense que c'est une bonne lecture de la situation à Ottawa. Pour revenir à ton nouveau défi, donc, dans la KHL avec le tracteur de Chelyabinsk, Zachary Foucalé était là l'an passé. Je sais pas s'il est contrat, si contrat pour la saison prochaine. J'imagine que tu lui as parlé.
C'est sûr, Zach. Écoute, j'ai eu c'est mon gardien au championnat du monde junior en 2015.
Oui.
Et puis, je l'ai coaché un petit peu à Syracuse aussi. Et puis, Zach, ben, il a été un petit peu l'agent de la ville de Chelyabinsk puis du directeur gérant parce que il a vraiment été mon premier coup de téléphone. Et puis, j'ai dit, hey, dis-moi tout. Je veux tout savoir. Toi, t'es jeune, t'en vas là-bas, t'es un joueur, c'est une aventure. Dis-moi, je suis jeune aussi, mais. Jeune, 30 ans plus vieux que toi, 25 ans plus vieux que toi.
Jeune de cœur.
On n'est pas rendu à la même place, fait que, mais vraiment, tout ce qu'il me dit de l'organisation, des gens qui mènent l'organisation, de la façon dont ils traitent les joueurs, la façon dont on voyage. Moi, Mario, là, j'ai vraiment été impressionné par ces gens-là dès le départ. Ils ont été étape par étape, à chaque question que je leur ai posée. Et moi, là, je rentre la première chose que je veux faire, Mario, tu vas dire peut-être que je suis fou, là, mais moi, je suis un old school coach. La première chose que je veux voir, là, c'est le bureau du coach.
OK.
Et je te le dis, l'équipe dans la Ligue américaine, là, sont pas très loin de New York, là. Le directeur gérant, il m'a dit, je vais te faire un zoom. J'ai dit non. Je vais aller m'asseoir dans le bureau, je veux savoir si je vais y mettre ça au coach. Moi, je rentre là, puis je sais tout de suite si c'est fait pour moi ou pas. Fait que, à Chelyabinsk, je leur ai demandé la même chose. J'ai dit, fais-moi une vidéo des installations. Puis si les installations sont pas. T'sais, j'en ai visité des places en Europe ou en Amérique du Nord, je me suis dit, je vais travailler là tous les jours, faut que j'aime ça. Donc, tu sais, ils m'ont fait ça, je leur ai dit, je vais vivre à quel endroit? Tout de suite, une heure après, j'avais une liste de logements où que je pouvais habiter. Le transport va fonctionner comment? La sécurité va être comment, etc. Donc vraiment, tu sais, j'ai été impressionné par la qualité de leur organisation, puis toutes les réponses et questionnements que j'ai pu avoir, ils ont éliminé un après l'autre, tu sais.
Ben tant mieux. Je regardais l'alignement. Bon, j'ai vu un Shashnikov qui a un peu d'expérience dans l'NH. Il y en a d'autres probablement comme Zach. Est-ce que tu as réfléchi? Tu sais, j'avais Cédric Paquette hier en studio qui lui arrive d'une année à Moscou. Pis c'était sa deuxième année là-bas. Il était à Minsk avant. Pis c'était drôle là, le portrait qui me dépeignait des propriétaires qui rentrent dans la chambre. Là, tu sais, tu disais que je suis old school. Je pense que tu seras pas trop dépaysé dans le KHL, Ben, si je me fie à de la manière dont ça se passait à Minsk, en tout cas, à Moscou cette année, en tout cas.
Ben écoute, je ne sais pas de ce côté-là, j'ai entendu toutes sortes d'histoires, mais tu sais, j'ai entendu toutes sortes d'histoires dans la Ligue nationale et américaine aussi. Donc, et oublie pas que j'ai coaché 12 ans dans le junior, fait que j'en ai vu des vertes et des pommures. Et puis mais ça, pour moi, là, je m'en vais là, avec l'esprit ouvert. Tu sais, Mario, j'ai joué 10 ans en Europe, à l'époque en France, quand j'avais 20 ans. Et puis, cette expérience-là est toujours restée avec moi. L'adaptation que tu dois faire dans un nouveau pays. Puis en plus, en France, je parlais français, même si c'est pas pareil. Et ça m'a pris un certain temps à m'adapter. Donc, je suis au courant de ça. Je suis au courant que c'est une nouvelle culture et qu'il va y avoir des ajustements à faire de mon côté et mon coaching staff aussi. Écoute, je suis en train d'interviewer des coachs russes tous les matins, je rencontre par Zoom, tu sais, je leur parle de hockey, etc. Puis je rencontre tout de suite que, tu sais, c'est pas la même culture, c'est pas la même approche, etc. Mais ça, tu sais, je trouve que c'est un beau défi, puis je suis prêt pour ça. Donc, pour moi, je m'en vais pas là en essayant de comparer ou quoi que ce soit. Je m'en vais là faire du hockey. Je m'en vais là pour m'adapter à une nouvelle culture, puis avoir la plus belle vie possible.
Ben, écoute, Ben, je pensais que tu étais prêt à faire de la radio à temps plein, mais on va t'attendre encore un petit peu plus longtemps. J'ai toujours tellement de plaisir à échanger puis à parler avec toi. Puis, t'as l'air content, fait que c'est contagieux. Je suis content pour toi, puis je pense que tous les gens l'écoutent ressentent la même chose. Puis, regarde, je suis convaincu que c'est une bonne décision. J'espère que ça va bien tourner. T'as-tu une petite hésitation sur le fait que c'est un pays en guerre? Tu sais, veux pas, j'imagine tout le monde te le demande, là.
Ben écoute, oui, tout le monde va le demander, puis c'est une question que je me suis posée. Puis je me souviens, j'en ai parlé avec ma sœur aussi. Et puis la conclusion que j'ai faite de ça, c'est que la Ligue nationale accueille les joueurs russes.
Oui.
La Ligue américaine accueille les joueurs russes. Il y a des joueurs canadiens et américains qui jouent en Russie. Il y a des joueurs de la Suède qui jouent en Russie, etc. Donc, de ce côté-là, je me dis, tu sais, il n'y a pas la barrière. Oui, il y a les événements qu'on connaît, mais il n'y a pas la barrière. Puis, je peux dire une chose, Mario. Moi, là, je sympathise. Je sais que j'ai une vie privilégiée et je sympathise avec les gens, avec ce qui se passe là-bas. Au même titre que je sympathise avec ce qui s'est passé à l'Université Columbia, ici à New York. Donc, on a vécu ça quand il y a eu la fusillade à l'interne, ou que je sympathise avec ce qui se passe là, à Gaza, etc., avec les Palestiniens. Tu sais, le monde, c'est pas un monde parfait. Je pense que les gens essayent d'avoir le mieux pour eux autres et leur famille. Puis en bout de ligne, je me suis dit, pas un politicien, j'ai un coach de hockey, je m'en vais là-bas pour donner le meilleur de moi-même, avoir une expérience enrichissante. Puis, ça s'arrête là pour moi.
Ben, un gros merci de l'entrevue. La meilleure des chances là-bas, puis on reste en contact.
OK, Mario, ça me ferait plaisir de parler.
Parfait. Merci beaucoup, Ben. Benoît Groulx, donc, nouvel entraîneur-chef du tracteur de Tchelyabinsk.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Touché!
Pour les fidèles du sport.
Dans l'équipe des amateurs de sport, il y en a un qui peut nous parler du nouvel entraîneur des Sénateurs d'Ottawa en toute connaissance de cause parce qu'il a joué sous ses ordres pendant son séjour avec les Canucks de Vancouver. Vous l'avez deviné, c'est notre Rooster, Antoine Roussel. Bonsoir, Antoine.
Salut, Mario. Comment vas-tu?
Ça va très bien. Toi, comment tu as réagi, Antoine, dès que tu as appris? Il n'y avait pas de fumée sans feu. La rumeur allait vers Travis Green. Ça a été confirmé aujourd'hui. Comment tu as réagi? Est-ce que les Sénateurs, selon toi, ont fait un bon choix?
J'ai été surpris par la nouvelle. Je ne pensais pas que, en fait, il allait vraiment être disponible. On le savait que dans le camp des Jersey, qu'on l'avait laissé la porte ouverte pour qu'il jase avec d'autres équipes. Mais moi, ça m'avait surpris parce que ça m'a vraiment surpris parce que je me suis toujours dit que pourquoi on ne l'a pas gardé avec le New Jersey, les Devils. Puis je me pose la question, on le laisse partir. C'est un coach qui a remplacé, qui était dans la même situation, du moins, avec une équipe jeune qui a manqué des séries cette année. Et on a manqué de jus, on a manqué de gaz et on le ramène dans une situation similaire à Ottawa. Et ça m'a fait un petit peu sursauter quand j'ai vu ta nomination. Maintenant, Travis, il y a des qualités. Il y a des qualités, c'est un gars qui est très organisé. Il va être capable de pousser son équipe au maximum. Il va être capable d'être un petit peu dur. Par contre, il y a des défauts aussi. Il y a le défaut que, pour moi, puis je pense que je t'en ai souvent parlé en nom, c'est pas quelqu'un qui croit nécessairement au fait que tu peux t'améliorer. Il m'a déjà dit, droit dans les yeux, que quelqu'un sur qui joue sur le désavantage numérique, ça s'améliore pas. Ça s'améliore pas, le désavantage numérique. Et là, quand il m'avait dit ça, j'avais été estomaqué, comme pour la nomination aujourd'hui. Donc, comme je te le disais, il y a des bonnes qualités, mais il croit pas nécessairement au... Ben, du moins, c'est ça que j'avais ressenti. Maintenant, est-ce que ça a évolué, cette perception-là? Probablement, les coachs s'améliorent, se mettent dans d'autres situations, vivent d'autres scénarios. Je lui souhaite quand même la meilleure des chances parce que Ottawa, c'est un marché qui est formidable, qui mérite de participer aux séries éliminatoires, qui ont une très belle équipe. Donc, en espérant pour eux que ça soit la bonne personne, j'ai des doutes.
Il a, pendant ses années avec les Canucks, sur 4 saisons complètes, il a une seule saison avec une fiche au-dessus de 500 dans une saison de 69 matchs en 2019-2020. Il a gagné une ronde éliminatoire, a été remercié lors de sa 5e année. Qu'est-ce que tu peux nous raconter des sensations, du sentiment qui t'habitait quand, par exemple, dans un vestiaire avant un match, tu entendais un discours, un speech, comme on dit dans le jargon, de Travis Green, l'aspect motivateur de son rôle?
Il était capable d'aller chercher le meilleur de ses joueurs, ça c'est clair, sans être un joueur sans être un coach qui soit capable de lever le vestiaire au complet. Dans une saison, c'est pas nécessairement les speeches comme ça qui font lever les joueurs. C'est de l'organisation, les points clés, comment on va faire pour fonctionner ce soir. Il était quand même ouvert aux ajustements de la part des joueurs. On a déjà eu plusieurs discussions avec l'équipe qui était en place de savoir comment on pouvait jouer telle ou telle situation. Maintenant, c'est comme je te le disais, c'est quelqu'un qui est capable de motiver. Ses camps d'entraînement sont difficiles. Dans une même discussion, on m'avait dit on va avoir le camp d'entraînement le plus dur de la ligue. C'est pas le seul coach à dire ça. Ils se craignent l'un l'autre pour que les gars arrivent en forme. Mais c'est vrai que ses camps d'entraînement sur la glace étaient difficiles. C'était pas évident. Les premiers entraînements étaient difficiles au coton. Les tests physiques l'étaient tout autant. Donc, c'est un coach exigeant qui va être capable d'aller chercher probablement le meilleur de ses joueurs d'une certaine manière. Il va faire en sorte que les joueurs vont jouer conscient du système de jeu. Puis moi, j'ai toujours apprécié, en fait, c'est pas la chose que j'ai le plus apprécié, c'était son idée et ses concepts de système de jeu. Parce que il voulait qu'on joue d'une certaine manière et je les appréciais, ces concepts-là, et je trouvais que c'était une bonne façon pour aller chercher le meilleur de tes joueurs, à leur demander qu'ils travaillent constamment. Puis peut-être la seule chose que je pouvais lui reprocher, c'était de ne pas nécessairement bien gérer un match. Et ce que je veux dire par là, c'est que t'as des joueurs dans certains matchs qui vont être chauds, il y en a qui vont être un petit peu plus froids, ils seront moins dedans. Il était pas capable. Je pense que il touche pas ses trios, pas capable de s'ajuster sur dans l'envolée pendant le moment présent. Donc c'est peut-être un autre petit défaut que je lui voyais, mais ils sont pas beaucoup à coacher de cette manière-là. Il y en a qui sont très patients, il y en a qui aiment ça avoir la gâchette facile. Lui faisait partie des très patients.
Les Sénateurs d'Ottawa sont pas une équipe qui sont au début d'un processus de reconstruction. Ils sont prêts, en principe, en tout cas en théorie, à aboutir à entrer en hockey éliminatoire. Quand on pense à Travis Green, lui a raté les éliminatoires les deux premières années qu'il a pris le club à Vancouver. Il était là pour la fin des Sedins. C'est lui qui a accueilli Elias Pettersson et Quinn Hughes dans la Ligue nationale. Es-tu capable de te mettre dans la peau des Sénateurs de Steve Staios, le directeur général ou le propriétaire Andy Lauer, à la lumière de ce que tu avais à Vancouver, puis te dire, OK, c'est pour ça qu'ils l'ont engagé quand tu penses à Ottawa, ou c'est un gros point d'interrogation pour toi?
Pourquoi engager? Je pense que c'est pas pour du développement. C'est parce que on veut aller chercher le maximum de nos joueurs qu'on a en ce moment. Travis, c'est pas nécessairement le meilleur coach pour le développement, mais au final, est-ce qu'il va être capable d'aller chercher, comme je te le disais, le meilleur de ses joueurs avec sa manière de jouer, avec les concepts qu'il va vouloir mettre en place? Ça, c'est officiel. Mais si on lui demande de prendre des jeunes joueurs, d'être patient, de leur montrer de la bonne façon à fonctionner, je pense pas que c'est nécessairement la meilleure voie à avoir.
OK, très intéressant. D'autre part, tu voulais me parler d'une belle histoire. Tes Stars de Dallas sont en deuxième ronde. Évidemment, ils vont jouer contre l'Avalanche du Colorado. Tu voulais revenir sur celui qui a marqué le but gagnant des Stars et qui permet aux Stars d'accéder à la deuxième ronde, ton ancien coéquipier. C'est un ancien choix de première ronde qui a sans doute pas eu la carrière à laquelle peut-être on s'attendait quand on l'a repêché, ce qui n'empêche pas qu'il n'ait qu'un jour de gloire en marquant le but gagnant de la série, Radek Faxa.
Mario, ne diminue pas mon ancien coéquipier. Il a quand même 600 matchs de jouer dans la Ligue nationale. Il vient de toucher à la trentaine et il lui reste encore beaucoup de bons hockey devant lui. Soit dit en passant, les rumeurs voudraient que plusieurs équipes soient à ses trousses parce que c'est un joueur de séries éliminatoires. Et Donc, du côté des Stars, durant la saison, on l'avait laissé un petit peu de côté. C'était pas nécessairement le joueur qu'on mettait au centre du quatrième trio en permanence. On l'a remplacé un petit peu par Sam Steele, donc on l'a mis à l'aile. On lui a trouvé d'autres rôles, mais on voulait le garder. Et ça, c'est les dirigeants qui me le disaient. On veut le garder parce qu'on sait quel impact il peut en avoir durant les séries éliminatoires. Puis, durant le temps des fêtes, j'étais à Dallas, justement, puis je commentais un match et j'étais arrivé dans le fond la veille, puis on a eu la chance de rencontrer Jim Neal, puis tout le staff de la direction qui était là, et on me disait ben nous on le garde parce qu'on sait qu'il est bon, on le sait qu'il va être bon pour nous, mais de l'autre côté Radek venait de se faire laisser de côté. Donc après la pratique du matin, je suis rentré dans la chambre, puis je suis allé voir mon vieux joueur de centre, puis lui demander qu'il y allait, puis l'encourager, puis de ne pas abandonner. Puis de voir, la situation avec laquelle il a évolué cette saison, il a rebondi, si on compare les deux situations. On pense souvent que dans la Ligue nationale, c'est un long fleuve tranquille, mais c'est pas le cas. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de doute, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments où ça va être difficile, et au final, c'est comment tu rebondis dans tout ça. Et ça m'a vraiment fait sourire, et ça m'a vraiment rendu heureux de voir Radek Faxon marquer ce magnifique but. Du revers en pleine lucarne et non plus c'est le but gagnant de Terry. Donc je suis bien content et maintenant la deuxième ronde commence ce soir et j'ai très hâte de regarder ça.
Ben moi aussi j'ai très hâte. Penses-tu que Dallas va réussir à traverser Colorado, Antoine?
Je pense que oui. Je le souhaite de tout cœur. Je pense que oui parce que on a une équipe qui a beaucoup de profondeur et on a une bonne différence par rapport aux Jets. Je pense que la défensive des Stars est mieux outillée pour absorber la vitesse du Colorado, donc de l'Avalanche, et ça va être la clé de voûte de cette série-là, l'implication de toute l'équipe au niveau défensif. Parce que on n'a pas, à vue d'œil, on n'a pas nécessairement l'équipe la plus rapide. On a des joueurs qui le sont, mais je pense pas qu'en équipe, on est ce qu'il y a de plus rapide du côté des Stars. Mais on va être capable, parce qu'on joue bien défensivement, on ferme le jeu, on limite les opportunités de l'adversaire, comme on l'a vu contre Vegas. Donc, je pense que oui, ça sera pas facile. Je le pense et je le souhaite de tout cœur qu'il gagne cette série-là.
En terminant, juste une observation. Les Stars de Dallas font partie de l'élite de la Ligue. Ils ont terminé au premier rang dans l'Ouest. Et quand tu regardes la composition de l'équipe, puis tu sais, je voulais pas le diminuer en disant ça dans ma présentation sur Faxa tout à l'heure, mais tu sais, c'est ça. T'as un joueur qui a peut-être pas, si tu veux, répondu aux attentes d'un choix de premier rang, mais c'est quand même un joueur de talent. Quand t'as le luxe d'avoir un gars comme ça sur ton quatrième trio, t'as une pas pire équipe. C'est comme ça que t'avances. T'sais.
Absolument. Puis c'est ça, en fait, le jeu des grandes équipes, que ce soit dans n'importe quel sport, c'est la profondeur. Et on a la profondeur à toutes les positions du côté de Dallas. Donc c'est ça qui est intéressant. Peut-être un petit peu moins en défensive. Il fallait que je corrige. Mais ça, c'est on va voir ça pour la suite des choses. Mais effectivement, c'est le fait de jouer avec probablement une équipe la plus profonde. Mais s'il jouait dans peut-être 25 autres équipes de la Ligue nationale, ça serait un régulier en permanence, puis il l'est en ce moment.
Antoine, je te dis un gros merci, bonne fin de soirée et à demain.
Merci Mario, bye.
Merci beaucoup, c'était Antoine Roussel.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.